Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Dans l'affaire que je vais vous raconter, il n'y a pas de meurtre, mais il y a un mort. Et derrière, il y a une drôle de tambouille, avec des Corses, avec un parrain du milieu marseillais, et un ingrédient qui pimente le tout, un huissier de justice. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
C'est une scène effroyable qui ouvre cette histoire. Le corps d'un homme au pied d'un immeuble, le crâne explosé, du sang partout. Et a priori, il s'est jeté par la fenêtre de son appartement au 6e étage. Ou alors il est tombé, ou alors on l'a poussé, c'est trop tôt pour le dire. Mais a priori, c'est un suicide. Nous sommes le 1er juillet 1999 à Paris 12e. Une enquête commence. L'homme qui gît sur la pelouse au pied de cet immeuble s'appelle Kamel Abichou, 43 ans, d'origine tunisienne. Marié, la gardienne vient d'appeler sa femme. Et il avait une fille, Laura, 13 ans. Laura était là, elle a tout vu. Vous imaginez l'horreur? 13 ans. Et c'est elle qui, d'entrée, vient refermer la piste du suicide. Papa, il s'est jeté par la fenêtre parce qu'il y avait deux policiers chez nous. Kamel Abichou se serait jeté par la fenêtre parce que des policiers le menaçaient, le poursuivaient. Quand les flics de la 2e direction de police judiciaire débarquent, ils vérifient si des collègues étaient dans cet immeuble ou encore mieux dans cet appartement.
Négatif, hein ? Aucun collègue sur les lieux aujourd'hui.
Donc, ça n'était pas des policiers. C'était des hommes qui se sont fait passer pour des policiers. Il faut que la petite Laura leur en dise plus, c'est pas facile. Elle est traumatisée. Dis-moi, Laura, à quelle heure ils sont arrivés, ces policiers?
Ils ont sonné à la porte vers 14h.
Ils étaient combien, Laura?
Ils étaient deux. Ils ont montré leur carte de police à papa. Et aussi, ils avaient des brassards. Il y avait écrit sécurité.
Ça se confirme. C'était de faux policiers. Et après, Laura, qu'est-ce qui s'est passé?
Après, j'étais dans la cuisine. Ils m'ont dit de pas m'inquiéter, que tout allait bien se passer. Après, je les ai entendus qui disaient à papa, « Tu dois signer, tu dois signer. »
Et lui, il disait quoi, ton papa?
Il disait « Non, non. »
Et toi, tu es resté dans la cuisine?
Non. Je suis allé dans le salon et là, papa, il m'a dit « Sauve-toi, Laura. Ces gens, ils sont envoyés par Polidori. Il veut me tuer. Sauve-toi, Laura, sauve-toi. »
Et après?
Après, il est allé vers la fenêtre. Il a sauté.
Il a sauté tout seul? C'est pas eux qui l'ont poussé?
Non. Il a sauté tout seul, mais c'est parce qu'il avait peur.
Et ensuite, ils sont partis?
Oui. Ils sont partis tout de suite.
Ces deux hommes, Laura, est-ce que tu peux essayer de me les décrire?
Il y en a que j'ai bien vu.
Il était comment?
Il avait 25 ou 30 ans. Il était brun, gros, c'était un blanc. Il avait un blouson comme un bomber noir.
Les policiers font le tour de l'appartement. Ils mettent sous scellé un verre d'eau et des mégots, en se disant que peut-être dessus, il y a des empreintes. Et sur la table basse du salon, ils tombent sur des papelards. Ceux sans doute que les deux hommes voulaient forcer Kamel Abichou à signer, et que dans la panique, ils ont oublié. Alors, il faut que je vous dise ce qu'il y a dedans, hein, parce que c'est la clé de tout. Le premier document est une lettre dactylographiée adressée au substitut du procureur de Paris. « Monsieur, je vous écris pour vous dire que dans l'affaire de l'étude où ma femme travaille, nous avons été manipulés tous les deux. Nous regrettons tous ces documents volés et falsifiés que nous avons utilisés pour faire du mal. Nous préférons vous écrire pour être en paix avec Dieu. Nous espérons qu'il n'est pas trop tard pour nous racheter de tout le mal que nous avons fait. » Pour l'instant, c'est un peu ésotérique, hein ? Mais ça ouvre nécessairement des pistes. Quant au deuxième document, c'est une reconnaissance de dette. « Je sous-signais Abichou Kamel reconnaît avoir reçu de l'ASL la somme d'environ 900 000 francs en provision de mes honoraires. » Donc, pour résumer, on a un nom lâché par la jeune Laura, Polidori. Et dans la reconnaissance de dette, le nom d'une société manifestement, ASL. Eh ben voilà deux pistes à exploiter. Les policiers de la PJ ont vite fait de savoir ce qui se cache derrière le sigle ASL.
Bon, c'est pas une société. C'est une association de loi 1901, une association caritative qui vient en aide aux jeunes en difficulté. Alors les statuts précisent que l'association a pour présidente une certaine Marie-Louise Polidori, huissier de justice à Paris. Et si j'ai bien compris, Polidori, c'est le nom qu'a donné la gamine, non ? Elle a dit « j'ai le PV sous les yeux ». Papa m'a dit « sauve-toi, ces hommes sont envoyés par Polidori ».
Eh oui. Mais il y a encore mieux que ça. Marie-Louise Polidori est la patronne de la femme de Kamel Abichou, Marilyn. Et elle a aussi été la patronne de Kamel Abichou, avant de le fiche dehors, il y a un an. Ce qui fait que depuis, il était au chômage. L'horizon s'éclaircit un peu. L'explication de la mort de Kamel Abichou se situe manifestement dans le cadre d'un conflit professionnel. Et maintenant, qui est cette Marie-Louise Polidori qui a l'air d'être au cœur de ce sac de nœuds ? Alors, elle est corse, elle va avoir 60 ans, elle est célibataire sans enfant, elle a débuté sa carrière d'huissier de justice à Bastia, une étude qu'elle avait achetée avec son frère, ça fait 6 ans qu'elle est venue s'installer à Paris, elle a racheté une étude située rue de Provence. Là, en revanche, il y a un os. Elle n'est plus huissier de justice en ce moment. Elle a été suspendue de ses fonctions par la chambre des huissiers il y a un an. Et pourquoi donc ? Va falloir se renseigner. En attendant, les policiers de la PJ tentent de dénouer le sac de nœuds. Qu'est-ce qui coince entre les Abichou, mari et femme, et Marie-Louise Polidori? D'abord, il découvre que Maître Polidori a acheté son étude parisienne et que quand elle est arrivée, Marilyn Abichou était déjà dans les murs, simple employée affectée aux écritures.
Comment est-ce que vous avez accueilli Maître Polidori, Madame Abichou, quand elle a pris la tête de l'étude dans laquelle vous travaillez?
Moi, très bien. Les autres, non. Beaucoup sont partis d'ailleurs, mais moi, je l'ai bien accueilli. Très bien, même, je vous dis.
C'est elle qui a décidé de vous faire monter en grade, hein, jusqu'à faire de vous la secrétaire de l'étude.
Oui, oui.
Moi, j'aurais jamais imaginé monter en grade si vite. Hein. Elle m'a fait confiance, on s'entendait bien, on est devenus très proches, et voilà, quoi.
C'est-à-dire ?
Ben, par exemple, on déjeunait souvent ensemble, on s'entendait bien, quoi.
Et c'est vous, madame, qui avez fait embaucher votre mari Kamel à l'étude ?
Oui, oui, oui. Enfin, j'ai dit à Marie-Louise que mon mari était au chômage, et elle lui a proposé du travail. Mais elle a mis des conditions. Hein.
Et là, vous êtes bien assis ? Voici la liste des conditions. Petit 1. Personne ne devra savoir que Kamel est le mari de Marilyn. Petit 2. Kamel devra donc en conséquence travailler sous un autre nom que le sien. Troisième condition posée par Maître Polidori. Kamel ne sera pas déclaré. Il sera payé au black.
Et vous avez accepté toutes ces conditions très contraignantes, Madame Epichou ?
Eh ben oui, oui.
Comme ça, Kamel était plus au chômage. Et on avait de l'argent qui rentrait, quoi.
Et là, d'après ce qu'elle raconte, hein, se déroule une cérémonie de baptême totalement stupéfiante.
Bien, Marilyn. Alors, votre mari, on va l'appeler Éric Delaplace. Hein, c'est bien. Et vous aussi, on va arrêter de vous appeler Marilyn Apichou. Hein. Votre nom désormais sera Madame Fougère. Ça vous va, hein ? Marilyn Fougère. C'est bien, non ?
Vous mesurez la dose de racisme qu'il y a dans cet épisode. Mais les Apichou ne mouffent pas. Ça leur fait de salaire. Eh oui. Et c'est pas fini. Dans la foulée, Maître Polidori leur propose d'être caution de leur nouvel appartement.
Mais ça sera un appartement plus grand pour vous. Ça sera mieux pour votre petite fille Laura.
Et c'est à ce moment-là que Léa Bichou deviennent locataires de l'appartement du 12e arrondissement, qui est l'appartement du drame. Et là, vous me dites, ben, elle est sympa cette Polidori quand même. Elle augmente Marilyn, elle lui confie des responsabilités, elle embauche son mari et elle est caution de leur appartement. De quoi ils se plaignent, ces abichous ? De quoi Kamel se plaignait-il au point de se jeter par la fenêtre du 6e étage ? Il se plaignait du piège dans lequel ils étaient tombés. Elle les tenait, elle allait pas les lâcher.
Marilyn, vous viendrez travailler samedi, hein ?
Des heures supplémentaires non payées, évidemment. Et Kamel, bien entendu, est soumis au même régime. Comment refuser ? Elle a été si gentille avec eux.
Kamel ! Kamel, venez me voir.
Alors demain, Kamel, vous allez procéder à l'expulsion de cette famille-là dans cet immeuble. Voilà l'adresse. Ah, et puis après-demain, vous allez aller me procéder à la saisie de tout ce matériel là chez ces gens-là. Hein.
Elle lui fait exercer le métier d'huissier de justice à sa place. Sans diplôme, sans habilitation, à la bonne franquette. Des saisies, des expulsions, en toute illégalité. Il savait ça, Kamel, ça le tracassait. Mais que vouliez-vous qu'il fasse ? Il était pieds et poings liés. Et vous n'avez même pas idée à quel point.
Et puis à un moment, Maître Polidori m'a carrément demandé de faire passer certains dossiers hors de la comptabilité de l'étude. Une comptabilité parallèle, si vous voulez.
Ces dossiers occultes, Madame Apichou, vous seriez capable de les retrouver, si nécessaire ?
Oh oui, oui. C'est pas compliqué, hein. Ils commençaient tous par le chiffre 8, c'était notre code.
Et comment est-ce qu'elle a justifié ces manipulations auprès de vous ?
Ben, elle disait, l'étude a des problèmes financiers, et toutes ces manipulations, elle disait, c'est pour sauver vos emplois.
Marilyn Apichou, alias Madame Fougère, dit qu'elle a comme ça dissimulé près de 120 000 francs, l'équivalent de 18 000 euros de l'époque.
Elle raconte aussi que Marie-Louise Polidori l'a remerciée par une augmentation de salaire de 50%. En cash, bien sûr.
Et c'est là qu'on a eu le contrôle de la Chambre des huissiers de justice de Paris, quoi. Ils sont arrivés un matin. Ils voulaient contrôler la comptabilité. Et je peux vous dire qu'à l'étude, c'était la panique.
Et le contrôle a eu lieu ?
Ah non, non. Pas cette fois. Madame Polidori leur a dit que la comptabilité avait du retard, qu'il fallait qu'ils repassent, quoi. Et ils ont accepté. Oui, oui, oui.
Ils ont accepté, mais ils sont revenus quelques semaines plus tard. Normal. Et ce jour-là, Maître Polidori attendait les contrôleurs avec des gros bras. Elle les a présentés comme des cousins venus de Corse. Oh ! Ils ont pas du tout aimé les contrôleurs. Ils sont repartis, mais ils ont fait un rapport sur les cousins corses et sur le refus de Maître Polidori d'ouvrir ses livres de comptabilité.
Et là, Kamel et moi, on est allés la voir. Et on lui a dit qu'on voulait plus, la couvrir, quoi. Que Kamel, il voulait plus faire des expulsions et des saisies à sa place, et que moi, je voulais plus tripatouiller dans la comptabilité, quoi. Et à ce moment-là, elle est devenue très, très menaçante. Elle m'a dit, Marilyn, vous êtes sur un siège éjectable. Si vous parlez, Marilyn, votre mari Kamel, il partira avec vous. Faites attention. Elle a même dit, vous avez un enfant à élever. Vous n'êtes pas à l'abri, etc., etc., quoi. Elle nous a fait du chantage. Et puis à un moment, elle est même allée carrément jusqu'à me dire « Vous savez, Marilyn, ceux qui me trahissent, même 10 ans après, je les retrouve, et je leur mets une balle dans la tête. » Elle m'a dit ça.
Et là, c'était plus du chantage, c'était des menaces de mort. Et maintenant, Kamel est mort après s'être jeté par la fenêtre du 6e étage. C'est une menace qui pèse lourd, très lourd.
Pourquoi est-ce que vous ne les avez pas dénoncés plus tôt, Madame Abichou ? Eh bien parce qu'on était complices. On avait participé à toutes ces magouilles. Dans quelles conditions est-ce que Maître Polidori s'est débarrassé de votre mari, Kamel ? Ben c'est quand mon père est mort. On a dû s'absenter quelques jours pour aller aux obsèques et ben quand on est rentré, il l'a fichu dehors du jour au lendemain. Il n'avait pas de contrat. Hein. Et moi, elle m'a complètement mise de côté. Je me suis dit qu'elle allait pas tarder à me virer, moi aussi. Alors pour me protéger, j'ai décidé de photocopier tous les papiers qui prouvaient que... Elle avait organisé cette double comptabilité. J'ai photocopié des preuves. J'en ai photocopié tous les jours un peu. Et elle s'en est aperçue. Non. Non, mais un jour, elle est arrivée et d'un coup, elle m'a demandé de réintégrer tous les dossiers qui avaient le chiffre 8 dans la comptabilité officielle. Et là, moi, j'ai refusé. Je me suis levé. Je lui ai rendu les clés de l'étude. Et je suis parti. Et elle vous a laissé faire ? Non, pas du tout, c'est pas son genre. Quand je suis arrivé chez moi, il était là devant ma porte, avec son frère, Jean-Charles, pour exiger que je retourne tout de suite au travail. J'ai eu tellement peur pour vous dire que j'ai appuyé sur le bouton rouge de l'ascenseur, vous savez, le bouton d'alarme. Du coup, le gardien est arrivé, il a demandé ce qui se passait, et là, elle a sorti sa carte d'huissier, et lui a dit de pas s'en mêler, quoi.
Et après, les Abichou sont allés tout droit au commissariat et ils ont déposé une main courante pour harcèlement. Et c'est pas tout. Le lendemain, Kamel Abichou est allé tout droit au palais de justice de Paris et il a demandé à rencontrer le substitut du procureur. Et il lui a tout raconté. Les actes d'huissier qu'il était obligé de faire et pour lesquels il n'était pas assermenté. La double comptabilité, plus un système de fausse facturation dont je ne vous ai pas encore parlé pour ne pas trop embrouiller votre cerveau. Le substitut a tout de suite ouvert une information judiciaire. Le juge a confié l'enquête à la brigade financière et l'étude du 57 rue de Provence a été perquisitionnée. Et cette fois, les cousins corses n'étaient pas là. Les policiers sont repartis avec sous le bras tous les dossiers litigieux, dont ceux qui portaient le numéro 8. Et ils ont mis à jour l'existence d'une fraude d'un montant d'1 million de francs. L'argent détourné allait sur les comptes de l'association ASL. Bref, il y avait un gros conflit entre Kamel Abichou qui s'est jeté par la fenêtre et son ancienne employeuse, dont on peut imaginer sans difficulté qu'elle a envoyé ces deux faux policiers pour l'intimider. Et l'intimider au point que Kamel a sauté par la fenêtre. Ils ont dû bien lui faire peur. Il a fallu un peu de temps, vous vous en doutez, au juge d'instruction pour dénouer ce sac de nœuds. Mais maintenant qu'il y voit plus clair, il met Maître Polidori en examen pour escroquerie et abus de confiance. Pour le reste, c'est trop tôt. Mais dans ce volet financier, il met aussi Marilyn Abichou en examen. Et oui, complicité d'escroquerie. Et maintenant, passons au volet possiblement criminel de cette histoire. Qui étaient ces deux policiers, faux policiers, et est-ce qu'on peut faire un lien entre eux et Maître Polidori? Il faut absolument retrouver ces deux zigotos. Et il y a une piste sur l'un des documents retrouvés chez Kamel Abichou.
Une empreinte digitale, les gars. On l'a passé au fichier et on a un nom. Arnaud M. Ancien militaire, ancien casque bleu en Yougoslavie et par ailleurs, petit délinquant.
Arnaud M. est placé en garde à vue. Et il se couche tout de suite.
Oui, je reconnais que j'étais chez lui le jour où il est tombé par la fenêtre. Vous étiez deux, n'est-ce pas? Qui était le second?
Je le connaissais pas, moi. Je sais juste qu'il s'appelait Jean-Pierre.
Comment ça, tu le connaissais pas? Ça tient pas debout. On va pas faire ce genre de boulot avec un type qu'on connaît pas.
Je le connaissais pas, je vous dis. J'avais juste rendez-vous en bas de chez lui.
Ok. Et après, qu'est-ce que vous étiez censé faire à Monsieur Abichou?
Moi, on m'avait juste demandé de donner un coup de main à Jean-Pierre, en me disant que c'était pour faire signer des papiers. Moi, je sais rien d'autre.
On m'avait demandé de donner un coup de main.
C'est qui, ce « on » ?
Eh bien, c'est un gars qui s'appelle Joe Daubagne.
Joe Daubagne ? Ça fait-il tout de suite dans la tête des policiers. Ils le connaissent, et même bien. Fiché au grand banditisme depuis 30 piges. Un truand. Un vrai.
Et toi dans l'appartement, Arnaud, quel était ton rôle?
Moi, je faisais juste la figuration. Et d'ailleurs, j'ai essayé de rassurer la gamine. Interrogez-la. Elle vous le dira.
Ça, la petite Laura le leur a déjà dit. Et donc, sur ce point, Arnaud M. ne ment pas.
Et t'as touché combien pour ce boulot?
Eh bien, Joe Daubagne, le gars Jean-Pierre et moi, on s'est partagé 5 000 francs.
Bon, ben maintenant, il faut retrouver Joe Daubagne. Sauf qu'il n'est pas facile à loger, le Joe. Les flics mettent un peu de temps à le localiser dans le 16e arrondissement de Paris, près de la porte d'Auteuil. Et ils le placent sur écoute. Et...
Allô? Comment ça va, Jean-Pierre?
Et de deux pour le prix d'un. Le Jean-Pierre qui était avec Arnaud chez Abichou est un Marseillais. Mettez-moi tout ce petit monde en garde à vue.
Joe, nous mène pas en bateau, Joe. On sait par le relevé de ton portable que le jour où Kamel Abichou se jette par la fenêtre, t'es tout prêt. T'attends tes deux gars en bas de l'immeuble, Joe.
Et c'est vous qui le dites, ça. Mon téléphone, peut-être, il était là. Mais moi, mon téléphone, je le prête.
Tu te fous de notre gueule, Joe.
De toute façon, vous me dites que dans cette affaire, là,
Les gars se sont partagés 5000 francs à trois, c'est ça. Oh. Moi, pour si peu d'argent, je lève même pas le cul à ma chaise. 5000 francs. Un contrat à 5000, je prends jamais un truc comme ça, moi. Mais putain, tu nous prends pour des caves ou quoi? Le jour des faits, juste après la défenestration de Kamel à Bichou, toi et ton copain Jean-Pierre, vous vous appelez 6 fois. 6 fois! C'est pour vous donner le résultat du tiercé? Je vous dis que j'étais pas dans le coup. Et Marie-Louise Polidori,
Joe,
ça te dit quelque chose? Polidori? Je connais pas.
Il ment. Et vous savez comment les flics vont le coincer? Joe Daubagne a utilisé sa carte bancaire dans un restaurant qui s'appelle l'Alba. Et l'Alba appartient à un certain Louis Polidori, le neveu de l'huissier Véreux, qui autrefois d'ailleurs travaillait pour sa tati. On commence à y voir clair. En étudiant le portable de Joe Daubagne, les flics établissent par ailleurs que le jeune Polidori, le neveu, l'a contacté 15 jours avant les faits, depuis une cabine téléphonique du village familial des Polidori en Corse, Castellare de Casinca. Et donc, Louis Polidori est interrogé.
Et bien sûr que je le connais, Joe Daubagne. Qui le connaît pas, Joe Daubagne? Mais moi, je l'appelle quand j'organise des soirées corses dans mon restaurant à Paris. Hein? Rien de plus.
Un contact gastronomique, autrement dit. Les flics voient le mal partout. Mais dans cette affaire, les flics ne pourront jamais prouver que Marie-Louise Polidori est la commanditaire de cette opération. Ils sont remontés jusqu'au neveu. Ils ont établi que Louis connaissait et fréquentait Joe Daubagne, qu'ils se sont appelés avant et après la défenestration, mais ils n'ont pas la preuve formelle que Louis, dans cette affaire, travaillait pour sa tati Marie-Louise. C'est dommage, mais on est d'accord que vous êtes convaincu vous-même qu'elle est derrière tout ça, n'est-ce pas? Eh ben, le juge d'instruction l'est aussi. Et donc Maître Polidori, qui était déjà mis en examen pour ses tripatouillages financiers, est aussi mis en examen pour complicité de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Rendez-vous devant la cour d'assises. Mais avant d'aller devant la cour d'assises, il faut d'abord juger Marie-Louise Polidori devant le tribunal correctionnel de Paris pour ses tripatouillages financiers. Eh bien, elle ne se présente même pas. Il faut renvoyer le procès et aller la chercher par la peau des fesses en Corse. Et quand le procès peut enfin avoir lieu, on juge aussi, en même temps, Marilyn Abichou qui a participé à la magouille. Normal. Marie-Louise Polidori prend 2 ans ferme. Marilyn Abichou, 3 mois ferme. Mais évidemment, le procès le plus intéressant dans cette affaire, c'est celui qui a lieu devant la cour d'assises de Paris pour la mort de Kamel Abichou. Et là, sa femme Marilyn est sur le banc des parties civiles. Alors on juge Maître Polidori, évidemment. Joe Daubagne, qui se présente devant les assises avec des Ray-Ban et une gourmette de 12 kilos en or au poignet. Et ses 2 hommes de main, Jean-Pierre et Arnaud. L'enjeu de ce procès est de démontrer que tout en haut, Marie-Louise Polidori est celle qui a tout organisé. Et c'est pas gagné. Elle a de bons avocats.
Mais enfin, ma cliente n'y est strictement pour rien. Vous ne pouvez pas établir le lien. Et par ailleurs, et ça c'est dans le dossier, Monsieur Abichou avait des tendances suicidaires. Et qu'il était psychiatriquement connu pour des bouffées délirantes aiguës, avec des tendances paranoïaques, ce qui indique qu'il se sentait persécuté. Mais ça n'indique pas nécessairement qu'il ait été persécuté.
Eh oui, ça c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Kamel Abichou était fragile sur le plan psy. Et d'ailleurs, sa femme, à la barre, veut bien le reconnaître.
Oui, Kamel avait fait des épisodes psychiatriques, des bouffées délirantes comme ils disent, mais il était guéri.
Au final, ce qui fait chuter Marie-Louise Polidori, ce sont les fameux documents retrouvés chez Abichou après qu'il a sauté par la fenêtre. Si Kamel les avait signés, ces papelards, qui était le bénéficiaire? Marie-Louise Polidori. Et rien qu'elle. Et puis, petit détail. Sur les papelards, il y fait allusion à un certain Éric Delaplace. C'est elle qui avait affublé Kamel de ce pseudonyme. L'avocat général requiert contre elle 14 ans de prison. Et au moment du verdict, elle écope de la moitié. Elle s'en sort bien. 7 ans. Jodeau Bagne, 6. Et ses deux hommes de main, 3 ans et 4 ans.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.